One, two, ten, shake. It's okay. That's it, man.
Divergentes et divergents, lettrés et illettrés, lecteurs et auditeurs, Jean Dichier d'ailleurs. Enfin bref, provoscopiennes et provoscopiens, le loup, le renard et la belette vous saluent. Vous avez la chance d'écouter Provoscopie, l'émission politique diffamante de la bande FM. Aujourd'hui, à nouveau, un de nos conseillers éditoriaux prend le micro. Il parle, lui, l'amoureux des livres. Saluons comme il se doit le PDG de Sorance qui ne s'économise pas à la chambre consulaire. Tel un Américain perdu sur les bords de la Grande Bleue, il s'est fait tout seul. Bonjour à Jean-Marie Sauvestre, le self-made man ostracisé par la région défraîchisée. Et que la divergence soit. Monsieur le lettré, monsieur le colporteur, monsieur le consul, salut.
Bonjour.
Bon, on propose de diverger pendant 90 minutes autour de trois thèmes suivants. Peut-on progresser sans vivre ensemble? Le balancier du savoir passerait-il de l'écrit à l'oralité, voire à l'image? Et quelle économie en chambre serait jouable à l'heure de la globalisation? Qui sont nos invités? Et Jean-Marie Sauvestre. Oui, non, on aurait pu avoir un économiste.
Oui, Philippe Piedemus, oui.
Voilà, mais...
Mais voilà, il a des cours à cette heure-ci.
Il a des cours, et donc ça prouve qu'il travaille, le garçon, quoi. Et puis Nicolas Chevassu.
Chevassu, voilà, c'est plutôt scientifique, voilà. Et qui travaille beaucoup sur des avancées techniques très, très, très intéressantes. Et lui aussi, c'était pareil. Alors bon, c'est peut-être un peu ma faute, je me suis pris un peu tard.
Bah, tu vas devoir parler en leur nom. Enfin, bonne chance à tout le monde, bonne diversité. Et puis avant tout, il y a notre belette préférée qui s'apprête, à pousser un cri. Elle s'interroge, la belette. Alors elle s'interroge, je ne sais pas trop sur quoi elle s'interroge, sur quelques valeurs de gauche, enfin rue de tâche, je ne vous en dis pas plus. À toi la belette, après le jingle.
Le cri de la belette par Jean-Pierre Foubert.
De vrais livres en bon vieux papier qui au fil du temps peuvent jaunir et sentir le doux mélange de poussière et d'odeur de fumée de la cheminée ou de tabac. Un rien écorné où les phrases qui vous ont semblé importantes au moment où vous les avez lues sont soulignées. Un livre matière vivante en quelque sorte. La dématérialisation me fait peur. D'abord, le livre, cela veut dire libre. C'est la trace, notre mémoire, notre histoire. Pour cette raison, les dictatures détruisent les livres en autodafés organisés ou symboliques, comme les nazis ou l'Inquisition, ou dans les sociétés imaginaires et pourtant réelles décrites dans Fahrenheit 451. À 65 ans, j'ai dû lire plusieurs milliers de livres. J'ai vu arriver la télévision chez moi avec une chaîne en noir et blanc. Mon imagination et mon imaginaire, sans doute, se sont développés à travers la lecture où je devais, dans ma tête, recréer les personnages, les paysages, les ambiances que l'auteur décrivait. Cela crée un sens de l'interprétation, un peu au sens de l'interprétation du chef d'orchestre face à la partition. La génération suivante est née avec la télévision, en couleur, 6 chaînes, où déjà l'image suppléait au texte, et où la lecture n'était plus une nécessité, mais un devoir au sens scolaire, voire une corvée, réduisant considérablement l'imaginaire d'une responsabilité individuelle à une réponse collective. Restait cependant le sentiment de manque intellectuel à combler. Tout manque ressenti crée l'envie de l'autre, l'envie de savoir, l'envie de boire, de fumer, l'envie à satisfaire absolument. Aujourd'hui, les moteurs de recherche peuvent mettre en grand danger les nouvelles générations qui pensent qu'elles n'ont plus à se poser de questions puisqu'elles ont toutes les réponses éventuelles. En 0,3 secondes, vous obtenez 2 535 423 propositions de réponses à n'importe quelle interrogation, même si vous ne consultez que la première page, et encore, de votre écran. Vous avez ainsi à votre disposition toutes les réponses à des questions que vous ne vous êtes même pas posées. Quel mirage ! une sensation de liberté de pensée, synonyme d'uniformisation de la pensée. La dématérialisation du livre est aussi la dématérialisation de la pensée. Le livre matériel offre la garantie du choix de se construire. Vive le livre, vivre libre.
Bon, bah, c'est pas gagné, hein. Il nous a parlé du progrès. Est-ce que ce serait encore une valeur de gauche? Enfin, bon, on va essayer de pas être sinistre, hein. Et on va voir un peu ce que notre invité Jean-Marie Sauvestre aurait à dire sur la question. Alors, nous sommes en compagnie de l'homme des livres. Ça, c'est clair. Il va être l'heure de lui donner la parole, mais avant tout, on va d'abord parler un tout petit peu de vin. Puisque tradition oblige, rubrique In Vino Veritas, Jean-Marie Sauvestre nous a apporté une bouteille de vin. Alors, c'est quoi cette bouteille de vin que tu nous as apportée?
Alors écoutez, c'est un vin que je ne connais absolument pas, mais j'adore une boutique qui est près de chez moi, à Vimes-Saint-Lazare, et qui s'appelle Les Vignobles qui montent. Et en fait, il met sur ses rayonnages que des vins que finalement on a peu l'habitude de voir. Et hier, quand je lui ai dit que je me fallait quelque chose pour ce midi, quelque chose que je ne connaissais pas et qu'on puisse découvrir ensemble. Bon, pas trop fort quand même, parce qu'on sort à peine du petit déjeuner. Donc, mais il m'a dit, voilà, Mas Foulaquier, Roulier 2010, parfait. Alors, à nous de voir si effectivement, avec un fond de fruits, m'a-t-il dit, assez intéressant, et Pic-Saint-Loup, hein, Pic-Saint-Loup.
Oui, ça ne dit pas les cépages qu'il peut y avoir. Si, Grenache, Syrah. On assira comme cépage, des arômes de fruits noirs et de violettes, effectivement, on trouve un peu voilà. Ça. Voilà. C'est vrai qu'on est dans le Pic-Saint-Loup. Bon, avec cette chose que les Pic-Saint-Loup sont en général très souvent excellents, mais ils ont un défaut majeur, les Pic-Saint-Loup, c'est le prix.
Ah, oui, mais là justement, ce magasin en fait a pour spécialité d'avoir des petits prix. Et ils aident en fait je trouve que l'idée est intéressante, en tout cas je n'en avais pas à Montpellier jusqu'à ce jour, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas connus, donc des prix qui forcément vont grimper peut-être dans les années qui viennent, mais qui pour le moment restent tout à fait accessibles. Et on peut vraiment y acheter des blancs, des rouges. Il y a d'autres vins qui sont beaucoup plus chers également, mais par exemple cette fin d'année, le champagne était vraiment à un prix très abordable et excellent.
Donc les caves qui se trouvent Avenue
Saint-Nazaire, les domaines qui montent, ça, à la place des anciennes caves Kerel.
C'est une adresse à retenir.
Donc, adresse à retenir.
Kerel qui lui maintenant fait dans l'industrie. Donc
on peut y aller, mais dire on ne sait pas ce qu'on voudrait voir, mais on voudrait voir quelque chose de bien.
On voudrait voir quelque chose de bon. Voilà.
C'est d'accord. Un couple de jeunes et ils sont vraiment très sympathiques.
Bon
c'est ma pub du jour.
Bon, alors on va parler peut-être un petit peu de progrès et puis de vivre ensemble. C'est la grande tarte à la crème, ça, le fait de vivre ensemble. Bon, les avancées scientifiques et technologiques ont permis de rendre la vie plus confortable. Ça, c'est clair. Depuis la révolution industrielle, la vie est globalement devenue tellement plus agréable que nos concitoyens pacifiés cherchent à vivre le plus longtemps possible. La vie quotidienne a été facilitée par le génie du travail de tous pour avoir le droit à la paresse. Est-ce que ça, c'est pas une excellente chose, en fait, justement, le progrès, malgré ce que nous disait la Belette, qui regrettait quelque part peut-être un peu le progrès?
Ah non, j'étais pas du tout nostalgique. Je constatais le fait qu'il y avait une espèce de logique à la dématérialisation du livre et que le danger était effectivement d'être noyé sous les informations, de telle manière qu'on se réfugie dans des valeurs sûres, éventuellement conservatrices et réactionnaires.
Oui, non, mais au-delà de ça...
peut-être une pensée de gauche, parce que tu t'étonnais tout à l'heure. Voilà, mais je pense que la gauche peut être aussi conservatrice et réactionnaire que la droite sur certains sujets.
Oui, ça c'est clair.
Une question cependant, est-ce que tu crois qu'effectivement le progrès donne obligatoirement le droit à la paresse? C'est pas toujours évident.
Ah mais sur le plan, je parlais sur le plan technologique et scientifique. C'est vrai que en gros le machinisme, dont on reprochait au XXe siècle
que
ça allait provoquer du chômage, ça a surtout permis la réduction du temps de travail. Donc
oui, mais on y revient au temps moderne, puisqu'on parlera de livres et de distributeurs de livres. Il suffit de regarder comment Amazon travaille. Et fait travailler des gens dans ces entrepôts, c'est l'état moderne, ni plus ni
oui.
moins.
Moi je crois qu'Amazon traite le livre comme d'autres traitent la viande de cheval.
Absolument. Voilà, c'était peut-être radical, mais Mais pour revenir à ce que tu disais, moi, il y a quelque chose qui, par rapport à tout ce qui est dématérialisé, m'inquiète un peu. C'est parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, ils voient, ils observent sur leur iPhone, enfin, sur leur tablette, etc. Pour eux, c'est la vérité.
Absolument.
On lit la presse, c'est la vérité. Or, on sait tous très bien qu'il ne faut pas lire la presse et croire que ce qui est écrit, sinon ça ne sort plus. Hein, aujourd'hui, plus personne ne vérifie plus rien. Et ça, moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. Et avant, un livre papier, il y avait un éditeur qui...
Ça, c'est le problème de l'école, justement, qui n'apprend plus aujourd'hui...
Oui, certainement.
...aux enfants, aux jeunes, à lire. Oui, puis véritablement, c'est avoir une lecture critique... en fait, c'est plutôt là le problème d'autre chose.
Le nombre de fois où on vous répond « Ah mais si, je l'ai lu dans le journal, donc c'est la vérité. » Mais non, c'est pas la vérité, c'est une vérité, mais c'est pas...
C'était la même histoire aussi avec la photo. À un certain moment, on a contesté l'écrit. Justement parce que...
Et là, c'est un vieux stalinien qui vous le dit. Mais, ça, il est au courant,
mais y avait
les trucages de photos.
La photo, justement, appuyait la vérité, entre guillemets... de l'écrit, c'était l'illustration véridique. Oui. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, nous savons aussi qu'effectivement, cette vérité-là n'existe pas. On n'existe plus.
Ouais, elle n'a jamais vraiment existé. En plus, avec Photoshop, maintenant, on ne peut pas faire ce qu'on veut.
Mais techniquement...
les Soviétiques, quand ils avaient viré Khrouchtchev, ils avaient rayé Khrouchtchev de toutes les photos, sauf qu'ils avaient oublié une paire de chaussures. Il y a une photo où il y avait 14 paires de chaussures.
Celle avec laquelle il a tapé sur le bureau à l'ONU.
Peut-être celle où il avait tapé sur le bureau à l'ONU. Quoi. Bon. Mais sinon, j'aimerais revenir sur le côté, justement, de ces progrès technologiques, de ces progrès scientifiques. Aujourd'hui, il n'est plus question de... Enfin, en France, il n'est plus question de survie, mais de vie. On ne se nourrit plus, on mange. On ne se vêt plus, on s'habille. On ne s'abrite plus, on se loge. Et même, on ne veille plus, on se distrait. Alors, est-ce qu'il faut vraiment remettre en cause le progrès dans quelque dimension que ce soit ? Parce que quand même, depuis les 2 siècles environ, c'est quand même extraordinaire les progrès qu'on a pu avoir au niveau de la vie quotidienne, quoi.
Alors certainement, mais...
Et y compris au niveau de l'info.
Oui, mais il faut peut-être s'entendre sur le mot progrès. Est-ce que c'est vraiment un progrès pour la civilisation ? Je ne suis pas sûr, parce que effectivement, les techniques nous amènent à faire de plus en plus de choses. Mais...
Plutôt que la cuisine au bois par terre avec le feu, c'est plus pratique que la gazinière.
Ça avait son charme.
Non, mais moi, je crois que évoquer le mot progrès, c'est évoquer une progression. On change de société.
Tout manger fumé ou tout manger salé, quand même, le frigo puis le congèle, quand même, c'est sympa.
Oui, mais il amène un Findus.
Voilà.
Le frigo est...
Je remarque qu'il y a des mecs soi-disant de gauche qui sont contre le progrès.
Non, on avance. Il y a la maîtrise du progrès.
Je crois que Jean-Marie dit une chose qui est juste. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de progrès, on parle de progression ou de changement, mais pas forcément de progrès.
Voilà.
Parce que dans une société est faite normalement pour gérer des choses de manière collective, alors qu'on a un phénomène d'hyper-individualisation. Donc je pense que l'évolution de la société, le progrès de la société amène à une dislocation de la société. C'est un vrai problème.
Oui.
Oui, d'où est-ce qu'on peut progresser sans vivre ensemble ?
C'est
le titre petit peu de cette première partie. Justement, mais le progrès a conduit aujourd'hui à ne plus avoir besoin des autres, grâce notamment à l'échange monétisé avec l'argent. Ça a brisé le solidarisme, le vivre ensemble. Et est-ce que c'est pas là la limite du progrès, justement ?
Je peux rajouter une question sur la manière dont on a introduit un nouveau concept qui est celui de citoyenneté. Je trouve ça assez... par rapport à ce que tu viens de dire, c'est aussi hyper démagogique.
Qu'est-ce qui est démagogique, ce que je viens de dire ?
Mais non. Oui, mais ça, bon, c'est traditionnel. Tout le monde le sait, y compris les auditeurs, que tu es démagogue. Mais le terme de citoyenneté, ce serait une manière...
Sous prétexte que je ne suis pas démocrate, ils me traitent de démagogue.
Voilà. Et c'est parce que tu as qualifié mon petit camarade de gauche d'ex-stalinien.
Le renard. Donc,
ça, c'est un qualificatif.
Finalement, le seul véritable démocrate autour de cette table, c'est moi. Mais je pense...
lui, c'est la pensée unique, la molette.
Je pense que l'introduction du concept de citoyenneté est un concept extrêmement démagogique parce qu'il tendrait à faire croire que nous sommes dans une société tellement idyllique et paradisiaque que les gens ont accès à la citoyenneté, c'est-à-dire au droit à la société, alors qu'on sait très bien...
Comme la démocratie participative, je pense.
Absolument.
Oui, mais moi, vous ne pensez pas quand même, quelque part, qu'il faut faire confiance quand même à l'individu, parce que, effectivement, le progrès amène des choses positives. Il amène aussi, effectivement, les fardeaux et les boulets là, qui se soulignaient. Mais il y a quand même aussi la réaction sociale, la réaction du citoyen. On voit que, par exemple, quand il y a une déshumanisation, quand on le travaille, se déshumanise. Aidez-moi. À partir de ce moment-là, bon, on voit quand même qu'à côté de ça, il y a des courants associatifs, des associations qui se forment, des solidarités qui existent par ailleurs. Il y a quand même des réactions. La société, elle n'est pas linéaire, elle est traversée par beaucoup de courants. Il y a toujours des réponses. Jusqu'à présent, l'histoire nous montre qu'il y a toujours eu des réponses. Est-ce que vous ne partagez pas cette opinion-là ?
Oui, mais vouloir demander l'avis sans arrêt de tout le monde, je pense qu'à un moment donné, ça va coincer la société complètement. Parce qu'on ne pourra plus rien faire. Parce que c'est vrai qu'il y a des groupes qui se forment.
Méfie-toi, parce qu'en tant que patron, là, tu veux friser l'antisyndicalisme.
Mais pour avoir participé en tant que patron, en tant que président du syndicat des libraires, je peux te dire que oui, il y a des syndicalistes très intelligents, il y en a qui sont vrais de...
Très con.
Voilà, je n'osais pas dire le mot, mais... Non, en fait, on peut pas avancer comme ça. Si de part et d'autre, les gens veulent faire progresser, puisque c'est ce thème-là qu'on est, si tout le monde est intelligent, ça se passait bien. Mais si on veut bloquer quelque chose en politique, et les politiques aujourd'hui, je pense...
Pas langue de bois, c'est quoi quelqu'un d'intelligent ? C'est quelqu'un qui pense comme toi ?
Non, je ne me définis pas comme quelqu'un d'intelligent. Non, je suis quelqu'un de curieux. Je suis,
mais c'est quoi quelqu'un d'intelligent ?
Quelqu'un qui pourra comprendre que ce qui est sur la table à discuter va admettre que l'autre a aussi peut-être raison, il ne va pas à tout prix défendre. Sinon, on est dans la société d'égoïsme dans laquelle on est aujourd'hui. Chacun tire la couverture à soi, chacun veut son truc là.
Mais est-ce que l'égoïsme, justement, il ne repose pas sur l'absence de projet commun ?
Voilà, oui, mais c'est... enfin, oui. Mais...
Oui, parce que c'est ça. Parce que comment on peut discuter de quoi ?
Il faudrait tout refonder. Je ne sais pas, mais il me semble que dans les années 60-70, Jean-Pierre, il y a eu quand même beaucoup plus d'avancées, en tout cas intellectuelles, que maintenant.
Et c'est, moi, je partage en partie.
Alors, ce c'est pas parce qu'on était jeunes à ce moment-là, mais bon.
Oui, oui. Non, mais il y a un problème qui vient d'être soulevé, qu'a Jean-François a soulevé, sur le problème des associations. Alors moi, j'ai un regard particulier là-dessus, même si je trouve que le mouvement associatif est intéressant parce qu'il permet de faire remonter un certain nombre de revendications ou de choix de personnes qui font partie de ces associations. Mais moi, je suis très méfiant par rapport à ça parce que normalement, le système politique est censé gérer les choses globalement et collectivement sans secteur privilégié. Hein. Je ne parle pas donc de l'écologie ou de la chasse, pêche, nature et tradition, mais les grands partis politiques sont censés gérer tout. Le phénomène associatif, c'est faire de la politique autrement, mais par le petit bout de la lorgnette. Parce que les mouvements associatifs ont une vision extrêmement parcellaire des problèmes globaux. C'est-à-dire, je m'intéresse à la pêche, au lancer, je m'intéresse à la pétanque, je m'intéresse à la lutte contre le cancer, je m'intéresse à tel autre problème, mais de manière complètement parcellisée. Donc les associations n'ont pas forcément de vision globale, quelle que soit d'ailleurs la qualité par ailleurs des membres et des gens qui travaillent. Donc je suis très méfiant. Je pense que le mouvement associatif est en train de remplacer l'investissement politique des citoyens, mais dans une logique de parcellisation, c'est-à-dire d'individualisation du citoyen. Et ça, je trouve ça très dangereux.
Et est-ce que tu crois que c'est pas...
Si le mouvement est intéressant
en soi. Est-ce que tu crois que c'est pas tout simplement, effectivement, un décalage d'horizon ? Parce que t'as les gens, ils vivent dans un univers, ils vivent dans un horizon qui est plus ou moins restreint. Et effectivement, aujourd'hui, on leur impose un univers beaucoup plus large. Et effectivement, il y a une question à se poser éventuellement entre ce décalage d'horizon, entre y compris le citoyen et ceux qui sont chargés, effectivement de le conduire, de l'éclairer, de le mener.
Mais sans retomber directement dans le débat et notre invité d'aujourd'hui, moi quand je vais dans une librairie, je ne citerai pas le nom de la librairie dans laquelle je vais régulièrement, tu as un sentiment de liberté.
Il va à la FNAC.
Et tu as un sentiment, tu as un sentiment de liberté absolument extraordinaire. Tu arrives avec des centaines de milliers de bouquins que tu n'as pas lus forcément, mais tu te dis je peux avoir un choix, je peux me faire une idée, j'ai cette possibilité de liberté intellectuelle, d'accès à une culture que je n'ai pas forcément, de sujets que je n'ai même pas imaginé, mais j'ai ce choix. Tandis que quand je ressors, je vois un peuple de gens qui traversent, qui sont complètement anonyme. Et donc, j'éprouve effectivement cette espèce d'angoisse. Et je pense que la société n'est pas en progrès au sens où elle est en progression, elle est en évolution, mais pas en progrès.
Me dis pas que tu crains le peuple quand même.
Non, mais je crois que c'est pas ça.
Je crains pas le peuple.
Non, non, c'est pas ça. Mais moi, je pense que chacun aussi doit être. Moi, je suis libraire. Je suis pas boucher. Donc, je sais faire mon métier de libraire. Je sais pas faire boucher. Je suis médecin. Je soigne mes patients. Mais aujourd'hui, mes patients, ils arrivent déjà avec l'ordonnance. C'est-à-dire, ils ont déjà consulté pour savoir quel médicament on allait leur donner. Enfin, le médecin, etc. Un instituteur, s'il y a des, enfin. C'est un point de vue, mais j'espère que je ne suis pas le seul à le partager. Moi, j'ai vécu le moment où les parents d'élèves sont rentrés à l'école. Je pense que c'est une catastrophe. Où on a donné de la place à parents d'élèves. Ils sont parents d'élèves, mais ils confient leurs enfants à des gens qui, normalement, sont formés pour éduquer. Voilà.
Les limites du progrès. Oui.
Quand il y a des intervenants extérieurs. Non, mais quand il y a des intervenants extérieurs qui se mêlent d'eux.
Moi, pour le sujet, j'ai supprimé les réunions parents-prof, moi. Et j'ai supprimé parce que les parents me gonflaient.
Eh ben non, mais à l'époque, moi j'étais chez maire, je veux dire, les parents d'élèves, il leur fallait une salle, il leur fallait plein de trucs. Mais en fait, c'était pas ça l'enseignement. Et je pense qu'on a un peu aussi, et dans toutes les professions.
Alors, il faudrait faire confiance pareil. Aux spécialistes.
Non, pas qu'aux spécialistes. Non, parce que je pense qu'il peut y avoir des avis éclairés. Mais il faut pas dire, quand on va à l'hôpital aujourd'hui, on va pas insulter l'infirmière. Parce
spécialiste, que, l'élite, Aristos en grec. Monsieur est un aristocrate.
Non, mais moi je partage le point de vue parce que effectivement chacun son boulot. Moi, les parents dont on sait que ils voudraient que les instituteurs donnent telle éducation à leurs enfants, mais en même temps s'en débarrassent et considèrent les instituts comme des gardes-enfants plus que comme des éducateurs, ça c'est un premier vrai problème. Donc je pense que les parents...
Ça va être le thème d'une émission bientôt, ça.
Non, ça va être le thème d'une émission. Et en même temps, les mêmes parents d'élèves qui râlent parce qu'on passe de la semaine de 4 jours à 4 jours et demi sous le prétexte qu'ils vont pas pouvoir prendre leur RTT au bon moment, etc., ça commence à me gonfler. De la même manière que les instituts
qui
râlent...
Ah bah c'est les autres qui me gonflent.
Oui, non mais les deux. Je trouve qu'on est dans une société comme elle est individualiste. Elle individualise les citoyens, elle développe en même temps de l'égoïsme.
Est-ce que c'est vraiment la société qui individualise les citoyens ou est-ce que c'est pas l'individualisme qui a...
Non.
Parce que les ressorts de l'individualisme, ils se sont imposés dans la société ces 50 dernières années. Ils ont permis à chacun de trouver son chemin de la liberté. Les gauchistes de mai 68, ont brocardé la société de consommation. Ils ont refusé le travail aliénant, excusez le pléonasme. Et ils ont troqué le tout pour affirmer la liberté. Est-ce que ça a vraiment permis à chacun de s'épanouir, justement, d'exercer la liberté ? Bon, pour une fois, je fais du Sartre, mais enfin...
Ce qui n'est pas forcément une très bonne référence hein, pour un mec qui a effectivement été collabo à une certaine époque. Je trouve que tu as des dérives droitières, si j'ai des dérives de gauche, assez étonnantes.
Oh, alors, si Sartre, alors maintenant, est droitier, alors...
Non, il a été d'un superbe opportuniste, ce qui, pour un bourgeois bien éduqué, ne me paraît pas incompatible.
Oui, mais est-ce que la liberté, c'était la solution à tout ? Est-ce que 68, quelle liberté,
comme disait quelqu'un de bien connu, celle du renard libre dans le poulailler libre.
Mais Jean-Marie Sebette, il en pense quoi au niveau de la liberté ? Est-ce que c'est pas justement cette apologie de la liberté qui finit par poser problème.
La preuve, c'est que tous les instruments dont on parle à l'instant ne vous rendent pas libre, puisqu'on sait toujours où vous êtes. Géolocalisation, on vous géolocalise tout le temps. On en est à penser qu'aujourd'hui, on va
donc
mettre
le progrès
on va
a brisé
des
la
bornes
liberté.
Dans cette ville pour soi-disant informer les clients, les acheteurs, mais en fait, on va enregistrer leurs achats et après, on va pouvoir leur dire que.
Donc, en l'occurrence, les limites de la liberté pratiquement sont atteintes. De par le progrès.
Oh non, je dirais pas ça, non.
On peut dire qu'en fin de compte, le progrès dans le mode, disons, de la surveillance, de l'écoute, de tout ce qui peut apparaître comme sécuritaire, effectivement, bride la liberté.
C'est une
réalité.
On ne s'en rend pas compte.
Et on ne s'en rend pas compte, comme de la même façon, y compris au niveau des moyens d'information. Je crois que c'est la maîtrise aussi diminue la liberté.
Et si on en revient aux rapports sociaux, justement, du vivre ensemble, est-ce que la virtualité telle qu'on la connaît, via Internet, les réseaux sociaux, etc., qui s'est imposée dans le quotidien, n'ont pas carrément déshumanisé les rapports sociaux ? Est-ce que c'est pas un problème? Et que même, par exemple, on est, en tant que libraire, par exemple, tu peux constater.
Ben oui, forcément, le constat, mais je pense qu'en fait, ça, comment dire ça, ça entraîne de, chez tout le monde d'être à la fois informé de bien plus de choses que ce qu'on pouvait être avant, et en même temps de ne pas parler. Je veux dire, pourquoi on envoie des textos sans arrêt? Pourquoi on est sur les réseaux sociaux pour dire ben, je fais ça, tiens, c'est mon anniversaire?
Oui, c'est ça, oui.
Voilà, donc tout le monde le sait maintenant. Et puis, si, même si vous ne voulez pas prendre la fonction d'anniversaire, pratiquement, on vous l'impose. Et vous êtes au courant d'anniversaire, donc vous n'avez rien à cirer de savoir que c'est l'anniversaire de Pierre-Paul de Jacques. Et vos amis, mais ça, en général, vous le savez.
Mais est-ce que vous croyez que c'est nouveau? Parce que comment je fais référence, par exemple, à mai 68. Mai 68, justement, quand il y a eu mai 68, tout le monde s'accordait de dire, pour la génération dont je suis, c'est-à-dire, voilà, mai 68, ça a été la libération de la parole. Et effectivement, justement, parce qu'il n'y avait plus de médias, parce que justement, il n'y avait plus rien, tout le monde était en grève, il n'y avait plus de télévision, etc. Et les gens étaient dans les rues, échangés, parler, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, la libération de la parole, effectivement, où elle est?
Oui, alors qu'aujourd'hui, on est passé quelque part dans le virtuel. Aujourd'hui, on vit à distance, on s'aime à distance, on tue à distance, on s'emmerde à distance. Les technologies de communication...
Drague à distance.
On drague à distance. On s'aime à distance, mais on peut la même chose. Et est-ce que les technologies de communication n'ont pas tué, tout simplement, le vivre ensemble? Et encore une fois, limite du progrès, quoi.
Non, c'est vivre différemment. Je pense que ça l'a pas tué. C'est, les gens vivent différemment aujourd'hui. Et vivent différemment bien plus de choses que ce qu'ils pouvaient vivre avant. Mais ça, c'est l'individualisme dont on parle qui tue tout. Enfin, qui tue cette relation qu'on pouvait avoir normale avant 68. Bon, on est d'une génération qui, avant, effectivement, un peu vécu 68. Moi, j'étais jeune, hein, 68. Mais je n'étais pas encore à l'université.
J'avais 20 ans.
Je n'étais pas à l'université. Mais il y a quand même une fracture qu'on a bien constatée, mais partout, dans toute la société, ce qui s'est passé avant 68 et ce qui s'est passé après. Donc c'est bien qu'il y a eu cette libération, mais de tout, des mœurs, de la parole, de la façon dont on était
Et est-ce que maintenant, quelque part, justement, on ne serait pas confisqué d'une autre manière?
Mais auto-confisqué.
J'ai entendu une interview de Daniel Cohn-Bendit hier soir, qui était assez étonnante.
Sur le livre qu'il sort, là.
Alors, pas sur le... Enfin, sur le livre, mais surtout, à un moment donné, l'intervieweur lui dit, mais quelle est votre position, vous qui avez été leader de 68? Et il dit, en 68, on disait élection piège à con, et je me suis trompé. C'est étonnant. C'est une espèce de... Non pas une trahison.
Non, mais ce qui prouve que c'est un garçon qui réfléchit.
Une réintégration dans un système...
Non, c'est un garçon qui réfléchit.
Nous sommes dans une démocratie de représentation, et donc si je veux accéder à une parole, il faut que je me réinsère dans un système préétabli. C'est assez étonnant.
Ou alors c'est de balancier.
Le balancier d'histoire, quelque sorte. C'est pas sa pensée, mais c'est intéressant.
Je précise que c'était une réflexion dans le cadre d'un bouquin où effectivement il expliquait pourquoi il se mettait à marge des partis.
Voilà. Bon, je sais bien, mais un mec comme ça ne devrait pas regretter d'avoir eu cette position à ce moment-là.
Enfin, quoi qu'il en soit,
quelle qu'elle soit.
On converse, on digresse, on diverge, c'est agréable, c'est bien. Mais à force de penser aux autres ou de penser pour les autres, on finirait par oublier que le destin peut et doit se dominer si l'on veut qu'il ne soit pas subi. Alors en attendant, détendons-nous avec un petit peu de musique afin qu'on se repolitise au sens noble du terme. Et on va écouter un morceau de libraire, enfin anglais certes, d'un groupe qui s'appelle Cake Open Book.
She's weaving, conceiving a plot. It quickens, it thickens, you can't put it down now. It takes you, it shakes you, it makes you lose your thought. But you're caught in your own glory. You are believing your own stories, writing your own headlines, ignoring your own deadlines. But now you've got to write them all again. She's an open book, but you don't know which page to turn to, do you? You think she's an open book, but you don't know which page to turn to, do you? Do you? Do you? Open your window, unbolt it, unlock it, unfasten your latch. You want it, confront it, just open your window. All you really have to do is ask. But you're caught in your own glory. You are believing your own stories, timing your contractions, inventing small contractions.
De pinceau du renard par Jean-François Gibert.
Grâce à l'omniprésence du texte sur Internet, sans parler de la popularité des textos sur les téléphones portables, la lecture est peut-être aujourd'hui plus présente que dans les années 70 ou 80, lorsque la télévision était le média, dirons-nous, neuf. Mais c'est une lecture différente qui cache une façon différente de penser, de vivre. Le style actuel de lecture découle de la recherche permanente de l'efficacité et de l'immédiateté, transformant le lecteur en simple décodeur de l'information. Les médias traditionnels, sous l'influence du net, s'adaptent à ces nouvelles attentes du public. Les programmes de télévision ajoutent des textes défilants ou des pubs qui surgissent, tandis que les magazines et les journaux réduisent la taille de leurs articles, ajoutent des résumés et parsèment leur papier de fragments d'informations faciles à parcourir. Sommes-nous reprogrammés? L'abondance d'infos conduirait-elle au papillonnage et à la superficialité? Le taylorisme gouvernerait-il aussi les esprits? Au fait, ça sert à quoi un livre? Le livre demeure l'un des seuls objets culturels qui exigent de tout arrêter. Pour exister, il nécessite une attention exclusive. Impossible de lire un bouquin en pensant à autre chose. Dans ce monde multitâche, consacrer tout son temps à une simple activité revient à perdre son temps. Et pourtant, l'intérêt du livre se trouve là. Il dilate le temps.
Bon, bah, parlons peu, mais parlons bien, c'est le cas de le dire. Et on va se retourner vers notre ami lettré. On va l'écouter. Mais avant toute chose, nous sommes donc dans le studio en la compagnie du PDG de Sorams, Jean-Marie Sauvestre. Et avant de revenir sur les thèmes que nous avons choisis, parlons encore un petit peu de flacons et de vins. Mais allez, on va faire un peu de littérature presque. Ce serait quoi un vin lettré ? Un vin dont on parle en le buvant ? Un vin à la belle syntaxe ? Un vin de salon ? Un vin lettré, c'est quoi ?
Non, c'est plus un vin qui vous donne de l'inspiration, je dirais. Non. Donc qui permet à l'écrivain d'écrire.
D'accord.
Oui, plutôt. Enfin, je
pense à Baudelaire.
Non, mais à d'autres, je pense que.
À Depardieu, non.
Non.
Alors, Depardieu, il n'écrit pas, il lit, lui.
Bon. C'est référence vapeur autour du vin.
Voilà, oui, je pense que c'est plutôt ça, en fait. Ça, bon. ça permet quand même de, voilà, de laisser vagabonder son imaginaire.
Alors, puis avant qu'on aille un petit peu plus loin, une petite provoscopie. Est-ce qu'on pourrait faire l'économie du livre ?
Ah.
La question est ambiguë. Oui, l'économie du livre en tant qu'objet économique.
Ou... Oui, ou ce que représente aujourd'hui le livre dans l'économie culturelle, par exemple, parce que c'est pas négligeable.
Tu peux nous dire ce que ça représente comme budget national, le livre ?
Le livre, c'est 4,5 milliards en France. 4,5 milliards, et le numérique en 2012, 21 millions. Voilà, ça donne la proportion du danger que représente le numérique.
Ce que j'ai pu voir, pu voir et à confirmer, c'est que...
C'est la première industrie culturelle, le livre.
Il y aurait un point et demi de moins, un chiffre d'affaires sur 2012.
Oui, un livre papier.
Ça ferait 3 ans consécutifs.
Ça fait 3 ans. Hein. Oui, ça fait 3 ans, mais moi je le situe même au-delà. Je pense que déjà c'est 2004-2005 où on a commencé à vraiment observer la descente de l'université. J'appelle ça comme ça parce que les étudiants ont commencé vraiment, ça va faire 10 ans, à beaucoup, beaucoup moins lire que la génération précédente. Parce que ils ont commencé à avoir des informations eux aussi via Internet, etc. On n'oblige plus, mais on l'oblige à certaines catégories d'étudiants. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans la société que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que les gens qui sont en classe prépa lisent beaucoup. Hein. Et c'est quand même eux qui deviennent l'élite de la nation après.
Et vous ne pensez pas que même y compris éditer des résumés de bouquins?
Ah, mais aujourd'hui...
C'est pas aller contre vos intérêts.
On ne lit plus aujourd'hui de la même façon, de toute façon. Et justement, le tort des éditeurs est de faire des condensés. Aujourd'hui, condensés. C'est-à-dire, il y a des programmes des classes sup, et en même temps, on sort le condensé qui fait qu'on n'a pas besoin de lire. Or, je pense que connaître un auteur, connaître une pensée, connaître un philosophe... ce que vous disiez, c'est un temps qu'on y passe, et on va y passer et repasser, parce qu'on ne comprend pas tout de suite.
Oui, les premiers qu'on pourrait citer, alors c'est des gens comme, par exemple, Olivier Duhamel, avec son dictionnaire des œuvres politiques, où en 800 ou 900 pages, on avait la totalité de la pensée des œuvres politiques de l'Antiquité à nos jours.
On ferait, quand il fait un bouquin dans lequel, effectivement, il donne 50 philosophes, où il veut tirer la quintessence de 50 philosophes.
Oui, pas, non.
Il écarte aussi. Enfin, je veux dire, il rentre, même les auteurs eux-mêmes rentrent dans cette logique-là.
Oui, mais aujourd'hui, demander, donc c'est pour les enseignants le problème, je pense, c'est demander aujourd'hui à des jeunes de lire des œuvres complètes.
Est-ce que ce n'est pas un abandon ?
Si, c'est un abandon. On fait des extraits, on n'a plus de la totalité. Platon, jusqu'à il y a quelques années, on demandait de lire les œuvres, enfin, au moins une, deux ou trois œuvres de Platon à l'intégrale. On ne demandait pas le résumé et je crois que c'est là parce que tout autour de cette table, parce qu'on aime le livre, mais on aime le livre pourquoi ? Non, bon, moi, je ne l'ai pas aimé à la base, le livre. Enfin, il me semble que je n'étais pas dans une famille où il y avait beaucoup de livres. Il y avait des livres, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais en fait, c'est après, quand on se rend compte que c'est comme ça qu'on se construit, en fait. C'est avec des livres. Et des livres, Jean-Pierre disait tout à l'heure, on va de l'un à l'autre. À un moment, vous vous intéressez à tel sujet. L'histoire, aujourd'hui, reprend beaucoup de vigueur, je trouve, alors qu'il y a quelques années, on dit ça y est, l'histoire est moribonde. Et, au niveau universitaire, elle est moribonde. C'est-à-dire que là aussi, je pense qu'il y a moins de recherche, il y a moins d'enseignants-chercheurs, il y a moins de... Enfin voilà, tout ça a des conséquences. Et on est sur... voilà, c'est aux émissions de télé qui font de l'histoire. C'est quand même tout différent que de lire ça, que d'approfondir des encyclopédies, comme, enfin des encyclopédies, des ouvrages dans plusieurs tomes. Je pense à l'histoire de la France rurale, l'histoire de la France urbaine. C'était des volumes qui, une fois que vous avez lu ça, vous compreniez tout.
Les vieux trucs de Duby, quoi. Oui, on comprenait tout.
Non, 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 histoire de la France urbaine.
Tout sans avoir la chronologie, ça c'était quand même un des grands défauts.
Mais oui, mais aujourd'hui il n'y a plus ce genre de manuel, enfin c'est même pas un manuel, c'était un livre de référence qu'on doit avoir dans la bibliothèque. Et je crois que c'est ça en fait. Hein, qui... Parce que là on se construit sur internet, vous allez vous tapoter, on vous renvoie des trucs, vous ne savez pas si c'est bien, si c'est pas bien. Enfin voilà, je crois que c'est une différence.
Et... Là il y a une vieille maxime qui disait « les paroles s'envolent, les écrits restent ouais. ». Est-ce que cette maxime est encore d'actualité ?
Bah, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on parlait des manuscrits de Tombouctou tout à l'heure, mais on pourrait parler des manuscrits de la mer Morte. c'était sur du papier et on les a toujours 20 siècles après pour les manuscrits de la mer Morte. Donc je suis pas sûr qu'aujourd'hui les nouvelles technologies fassent qu'on garde en mémoire tout ça, parce qu'il peut y avoir des crashs, je sais pas quoi, d'ordinateur, vous perdez toutes vos données. Hein.
Ça, il suffit d'avoir sauvegardé sur plusieurs oui. clés USB, plusieurs ordinateurs.
Oui, mais infinie...
N'importe quel étudiant le sait, ça, il sauvegarde X fois, non, justement, pour pas qu'il lui arrive ce genre de galère. Quoi.
Oui, non, mais c'est intéressant, parce que si tout est numérisé, comme ça l'est de plus en plus, quand même, ça permet à des gens de lire des livres qu'ils ne pourraient pas lire parce qu'ils n'existent plus, ou alors ils sont un exemplaire ou deux exemplaires dans telle ou telle bibliothèque. Là, je pense que c'est une vraie démocratisation, mais ça touche quand même peu de monde.
Et est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement, un peu comme... Je fais référence à la musique. La transformation de l'économie, est-ce qu'elle ne va pas mettre... Enfin, justement, si effectivement le livre... passer au numérique, etc. Bon. Les capacités de la fonction d'éditeur. Que vont devenir les éditeurs ? Est-ce qu'ils auront la possibilité, effectivement, de donner ou d'ouvrir la porte aux futurs aux écrivains de demain ? Ou est-ce qu'effectivement, avec le numérique, on ne va pas rentrer un peu comme dans la musique, où effectivement, chaque jour, on produit plus ou moins un chanteur, qui ne font que passer.
Et justement, etc. Être vu ou être entendu est plus important aujourd'hui qu'être lu.
Alors, c'est là
les
où...
Les stars aujourd'hui, c'est plutôt des gens qu'on entend, qu'on voit, plus que des gens qu'on lit.
Où j'ai un petit peu d'inquiétude, c'est pas tellement sur la réalité d'aujourd'hui, même si elle interroge. C'est effectivement sur ce que ça peut être le livre demain. Et comment, effectivement, de nouveaux écrivains peuvent, effectivement, être encadrés, édités, connus, etc.
Mais est-ce que vous n'êtes pas tous tout simplement de vieux barbons qui luttaient contre un progrès qui est inéluctable, à savoir cette révolution qui remet en cause l'imprimerie, quoi. Et puis que c'est un monde nouveau qui arrive, est-ce que c'est pas ce vieux monde qui meurt devant vous qui vous traumatise ?
Oui, mais donc on aurait été très content de vivre à l'époque où on a vécu, parce que je pense que c'est quand même un certain abêtissement de la société qui t'a...
Oui, mais ça, moi j'ai souvenir de mon père, de mon grand-père, arrière-grand-père, de mon temps, c'était mieux.
Non, mais c'est pas de mon temps, mais je crois quand même que...
C'est vachement bien le temps d'aujourd'hui.
Non, mais quand on dit un éditeur, c'est un métier, un éditeur. Aujourd'hui, on se glorifie du fait qu'on puisse publier sur Internet directement son texte.
Moi, voilà.
Je reçois des gens à la librairie qui m'amènent leur texte à lire, parce que pour eux, c'est le chef-d'œuvre du siècle. Ouais. Je peux vous dire qu'ils partent tous à la poubelle. Ma carrière, j'en ai retenu deux, peut-être, enfin, retenu deux qui ont pu être édités, mais tout le reste, ça va bien.
À bon entend leur salut, mais il y a à la technique notre camarade et néanmoins ami Gilles Gouget qui visiblement n'en peut plus, veut intervenir. Gilles, à toi.
Ouais, non, je voulais dire justement par rapport à cette idée du numérique, faut pas perdre de vue non plus le bilan carbone d'un livre papier par rapport au bilan carbone d'un ordinateur ou d'une liseuse, etc. Il faut tourner le petit bouton du casque pour avoir un petit peu plus de son. Le problème, c'est que le bilan carbone d'un ordinateur ou d'une liseuse sera toujours mille fois pire que celui d'un livre. Et le plus important dans tout ça, c'est que les liseuses que Kindle, etc., qui mettent sur le marché, c'est des fichiers qui sont pleins de DRM, de menottes numériques. Moi, j'achète un livre papier, je peux le donner demain à quelqu'un. J'ai le droit de le faire. Avec le livre numérique, enfin avec les Kindle, on n'a pas le droit de le faire. On n'est plus possesseur de...
Bon, en France, quand on n'a pas le droit, on le prend. Quoi.
On n'est plus propriétaire du livre qu'on a acheté. On achète juste un droit d'usage, comme une licence pour un logiciel. Il ne nous appartient pas, en quelque sorte. Et ça, c'est un espèce de rapt, et puis c'est la fin du partage, du don, hein, faire l'économie de la grâce, comme on dit dans les licences libres, etc. C'est qu'on vise à imposer aux gens... non pas le fait d'acheter et de posséder un livre, mais le fait d'avoir accès à ce texte, d'avoir le droit de le lire, mais en quelque sorte de ne pas avoir le droit de le copier, par exemple. Et là, c'est une aberration. Je pense que le livre sera toujours là. Le livre papier, il a encore de beaux jours devant lui. Alors peut-être qu'on imprimera... Il y a plein de cochonneries qu'on imprimait avant et qu'on imprimera peut-être plus parce que les gens ils vont faire une consommation très instantanée sur Internet, ils vont s'en désintéresser. Mais il n'y a qu'à voir les éditeurs en ligne qui se sont montés où les gens peuvent publier en ligne leur ouvrage et après les lecteurs éventuellement ils en commandent la version papier à l'unité. Aujourd'hui, on sait faire ça. Donc, on n'a plus besoin d'imprimer 1 million d'ouvrages pour les sortir en papier. Donc, je ne pense pas que le papier soit mort, loin de là. Voilà, c'était mon petit...
Attends, moi, je pense que ce qu'il vient de dire est essentiel. Ça veut dire... Tout à l'heure, j'évoquais dans mon papier les problèmes de l'autodafé. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus besoin de brûler les bouquins ? Il suffit de cliquer en disant « ce titre disparaît » instantanément.
Supprimé.
Et qu'il n'y en ait plus d'exemplaires, sauf... Plus d'exemplaires du tout sur le net, sur le web au niveau international, sauf la version papier. Fahrenheit 451, relisez ce livre.
Bon. Mais ce que tu dis là, ça existe déjà sur YouTube. Je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu es censé pouvoir acheter à la limite n'importe quel disque, etc. Mais il y a un certain nombre de... Je pense par exemple à Léo Ferré. Il y a beaucoup de la discographie de Ferré, qui n'existe plus sur YouTube. Moi, je sais avoir acheté un an ou deux ans en arrière. Je les ai perdus, j'ai voulu les racheter, ils n'existent plus. Donc à partir de ce moment-là, c'est donner la maîtrise à quelqu'un de décider de ce qu'il décide de vendre et de ce qu'il ne décide pas de vendre.
C'est une nouvelle forme de la censure.
Exactement. C'est là où c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais référence lorsque nous parlions de liberté. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, l'évolution, soi-disant au nom de la liberté, au contraire, ne nous limite pas dans notre propre liberté.
Oui, justement, aux États-Unis, là, je disais un truc il y a quelques jours, il y a un truc qui fait fureur aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les livres oraux. C'est-à-dire que, en fait, c'est une espèce de cassette d'un bouquin, y compris, ça peut être de la littérature, de la philosophie ou de n'importe quoi, et où c'est dit par un acteur, donc c'est bien dit, enfin, voilà. Et alors,
Mais ça existe aussi à Montpellier, ça. On a des rayons entiers.
Et l'avantage extraordinaire, c'est que dans sa voiture, par exemple, on peut très bien lire un livre en conduisant. Donc, ce qui contredit ce que tu disais, à savoir. Billet de tout à l'heure, à savoir que le livre, on ne peut faire qu'une seule activité, c'est lire le livre. Ah ben non, maintenant on peut entendre un livre.
Attends, on ne peut pas interdire les portables.
Non, mais attends,
les portables dans une voiture, si on tolère.
Non, mais attends. Tout à l'heure,
lire Proust à voiture, sûr qu'il n'y ait pas un accident.
Non, moi, je ne crois pas parce que la mémoire, je vais te dire une chose. Les vitesses de lecture et les vitesses d'écoute ne sont pas la même. Et chacun lit à son rythme, alors que lorsqu'une personne parle, bon, on est obligé de subir son rythme.
Non, tu peux faire pause.
Parce que c'est des lectures souvent qui sont collectives.
On peut revenir à la page d'avant.
Pas revenir à la page. Donc,
si, tu fais marche arrière.
Alors, écoutez, tout à l'heure, je décriais éventuellement le danger du mouvement associatif. Là, je vais faire de la pub pour une association qui s'appelle l'Association des donneurs de voix.
Bien sûr, c'est eux
qui a été créée pour justement permettre à des gens, notamment qui étaient aveugles, il n'y avait pas de traduction en braille, effectivement, de pouvoir avoir accès à des textes qui était lu par des gens, de manière à ce que des gens qui ne pouvaient pas lire puissent effectivement...
Là, je ne conteste pas l'utilité sociale.
Non, mais
ça.
Donc... Enfin, je veux dire, tout n'est pas acheté.
Non, mais la molette est réactionnaire. Elle parle d'aveugle et non pas de non-voyant.
À savoir si ça sera généralisé, je dis qu'il y a les limites. Parce que celui qui a la possibilité de lire un bouquin à son rythme, c'est quand même beaucoup plus agréable qu'effectivement que de l'entendre.
Oui, mais on se raconte quand même que des nouveautés, et des nouveautés plutôt best-sellers, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés de lecture. Et peut-être que d'ailleurs, c'est grâce ou à cause de tous ces objets qu'on a tout le temps devant les yeux, les gens fatiguent énormément. Et autant avant, Jean-Pierre disait c'était surtout destiné aux aveugles, mais aujourd'hui, les gens qui vieillissent... Enfin, je ne sais pas s'il y a des études qui sont faites, mais voient moins bien que peut-être leur prédécesseur. Et on voit que ça se, c'est pas parce que c'est pas pour écouter forcément la voiture, mais c'est parce qu'ils veulent l'avoir dans l'immédiateté et qu'ils ont vraiment des difficultés. Les livres en gros caractère continuent à très bien marcher. Et avant, les livres en gros caractère, c'est parce que la personne veut aussi. Et là, on voit bien comment les gens font les deux. En fait.
C'est pour ça que Johnny Hallyday, il a fait son bouquin avec des caractères énormes.
Enfin, c'est pas lui qui l'a écrit.
Pour un petit que 2000.
Pourquoi il y a des excès inverses, hein. Je me suis cogné les 1500 pages du monde comme représentation de Schopenhauer. Je peux dire que c'est écrit, mais alors il faut une loupe pour le lire.
Oui, et puis sur la musique, puisque on parlait de musique, je pense quand même, et c'est des discussions que j'ai avec tous mes amis quand ils sont tous sur Deezer, enfin, des trucs comme ça, vous dites, mais tu sais, formidable, on peut avoir tout quand on veut. Tout, d'abord, tu sais pas ce que ça veut dire, tout.
Non, tout, c'est pas vrai.
Ça veut rien dire.
Que je disais,
et deuxièmement, mets-moi la calasse sur Deezer, ça vaut rien. Ça vaut rien, c'est pas vrai. Une calasse en live, c'est pas vrai. Et alors, quand on fait comparer, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, on compare les deux versions. On n'a pas le même son. Donc, effectivement, on va apprendre à écouter de la musique différemment et ce ne sera pas la même qualité. Ce sera pas... Mais c'est peut-être de la démocratisation, ça aussi.
Mais enfin, d'un autre côté, bon, on ne peut que constater, s'en réjouir ou pas, ou le déplorer, que le vieux monde meurt, qu'il est malade, il est ridé. Mais en même temps, rien ne se perd, tout se transforme. C'est le vieux principe de l'entropie. Et que peuvent les gens de ce vieux monde pour aider la génération future à construire le nouveau monde ?
Ah, ça c'est rigolo parce qu'il y avait un slogan en mai 68 qui disait « Cours, cours, camarade, le vieux monde est derrière toi ».
Non mais en l'occurrence, qu'est-ce que les générations passées pourraient apporter aux générations futures, non pas pour construire notre monde, mais pour les aider à construire le leur ? Parce qu'après tout, c'est plus le nôtre et on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est plus notre problème.
Maintenant, revenir à l'oral, c'est revenir au passé. Hein. Parce
que... Ah oui,
c'est l'écriture jusqu'à présent qui a fait que.
Oui, maintenant c'est extraordinaire. Maintenant, même sur Internet, avec les nouvelles tablettes, et puis etc., tu veux aller sur Google, tu ne tapes plus ce que tu cherches, tu dis ce que tu cherches. Peu importe, tu cherches un resto, n'importe quoi, tu dis restaurant gastronomique à Montpellier, je sais pas quoi, et hop, ça te fait le truc. Donc à quoi sert-il de savoir écrire, à quoi sert-il presque de savoir lire, puisque en l'occurrence, si la réponse est encore écrite aujourd'hui, avec Google, mais on peut très bien imaginer que d'ici quelques années à peine, la réponse sera orale et que l'ordi te répondra oralement.
Donc, ça supprimera tous les coups consacrés par la société à l'analphabétisation.
Et bah voilà, mais ça fera des économies.
Ça fera des économies. Comme ça, effectivement, les gens... Enfin, ils se sentiront moins seuls.
Et puis au-delà de ça, est-ce qu'il faut continuer à apprendre aux enfants à lire et à écrire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas leur apprendre, dès le plus jeune âge et dès la maternelle, à se servir d'un ordinateur et d'un clavier ?
Bon, ça, ils savent déjà, de toute façon, tous.
Oui, mais du coup, à quoi sert l'école ? Après, les gamins, ils s'emmerdent à l'école.
Non, moi, c'est que je crois.
Et ils ont raison.
L'école sert à socialiser. Donc, de toute façon...
À socialiser. Quel que soit... Je ne vais pas faire du sarkozisme, mais enfin... ça arrivait à mon gamin, il n'y a pas longtemps. Il a fait non pas la princesse de Clèves, mais Madame de Sévigné. Mais il s'en branle,
mais ça dépend de ce qu'il a lu. S'il a lu les contes...
Mais il n'a pas lu. S'il a lu
les contes français que Grivois de Madame de Sévigné, il aura fait au moins des progrès sur sa sexualité. Moi, je crois que l'école sert à socialiser. Donc, quel que soit l'état de la société, l'école servira toujours à socialiser. Donc, moi, je ne suis pas contre l'évolution technologique ou les nouvelles techniques. Je pense que, justement, l'évolution se fait, plus le danger est grand. Et donc, plus ce qui a fondé ma pensée il y a quelques 45 ans, en 1968, quand j'avais 20 ans, eh ben, me permet effectivement de penser que la révolution est permanente. Comme le slogan de cette émission, c'est que la révolte n'est pas...
Quand un socialiste se révélait trotskiste, alors là...
Ah, sûrement pas. L'assassin,
ah, la révolution l'assassin, permanente de vos garçons,
l'assassin de la révolte de Kronstadt ne peut pas faire partie de mes idoles.
Mais ce qu'on peut penser éventuellement, c'est que si la lecture reste, peut-être que l'écriture, elle, disparaîtra. Voilà.
Non, parce qu'elle est liée intimement. L'écriture et la lecture sont liées intimement.
Non, non, attends.
Si tu sais lire, écrire par...
Peut-être. Non, si tu sais lire, mais écrire, c'est différent.
Non, écrire,
parce
de façon
qu'on est passé quand même de la plume au clavier. Et si demain, effectivement, on passe où le gars, il parle, et effectivement,
Il
dicte... À partir de ce moment, il peut se dispenser d'écrire, mais il ne peut pas se dispenser de lire.
Non, parce que la seule
La lecture peut subsister alors que l'écriture va disparaître. D'ailleurs, dans les textos, là, l'écriture elle disparaît.
Oui.
Elle a disparu.
C'était vrai il y a 10 ans.
Elle a disparu.
Moi, ce qui est étonnant, c'est que la forme d'écriture des textos, des SMS, a changé énormément. C'est-à-dire, l'écriture compactée en utilisant des onomatopées est en train de changer.
Oh, parce que tu n'as de textos que de vieux barbons retraités.
De très jolies femmes qui ont envie de me faire une déclaration qui est plus agréable.
Excuse-moi,
que...
mais moi, quand je reçois des textos de mes neveux ou nièces, la foi, ce n'est pas les mêmes que les tiens. voilà, c'est tout.
Je te parle de mes amoureuses, mes neveux et nièces.
Alors, je sais qu'elles ne sont pas si jeunes que ça, tes amoureuses.
elles vieillissent avec moi, mais tu sais que l'âge permet aussi l'expérience. Et donc.
Pour conclure là-dessus, je me retourne vers Jean-Marie Sylvestre. Est-ce que du passé, il faut faire table rase ?
Non, sûrement pas, je pense pas. Non, moi je pense pas, parce que tout sert. Le gros problème aujourd'hui, c'est que tout va trop vite tout le temps. Tout le temps, tout va trop vite et ça avance trop vite. Et tous les jours, toutes ces technologies, dans 6 mois, elles ne sont plus valables. Aujourd'hui, les livres numériques, pour lire, si vous voulez lire la totalité de ce qui existe, il vous faudra je ne sais combien de tablettes, parce que vous ne pouvez pas tout avoir sur une tablette et vous ne pouvez pas. Les technologies sont différentes, si c'est Amazon, si c'est Kobo, si c'est. Voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas des outils qui permettront. Alors, peut-être qu'on est en train d'y arriver et d'y penser avec les clouds d'Orange ou d'autres. Sur lesquels on travaille, parce que finalement dans toutes ces discussions et en ce qui me concerne, c'est de dire bon, quelle est la place du libraire dans tout ça, parce que si tout est directement envoyé sur des tablettes, je vois pas où est notre utilité là-dedans. La façon dont on travaille avec Orange est plus intéressante, c'est qu'on travaille sur une vraie bibliothèque numérique qui est quelque part dans un nuage et qu'on va acheter au fur et à mesure, donc par l'intermédiaire d'un libraire, pour se faire sa propre bibliothèque. Simplement, vous ne l'aurez pas chez vous, vous l'aurez quand vous en aurez besoin. Ça, c'est...
Ça veut dire quoi exactement ? Je comprends mal.
Au lieu d'avoir une bibliothèque chez vous, elle est dans le nuage, dans le cloud d'Orange. Vous achetez le bouquin et vous l'avez à vie. Mais vous ne l'avez pas chez vous. Quand vous allez le lire, vous appuyez sur vos boutons et vous l'avez. Vous passez et Orange...
Jusqu'au moment où Orange, mettons, dictateur, autocrate et tout, décide de supprimer le bouquin. Et dans ces cas-là, c'est l'autodafé. Enfin, c'est l'autodafé mondialisé.
Non, le bouquin, il existe toujours. En fait, et eux, ce qu'ils voulaient...
Mais là, si on ne l'a pas, enfin...
Et en fait, c'est la mission qu'ils ont eue. C'était dans les plans Sarkozy, où ils ont eu de l'argent pour travailler avec toute la chaîne du livre. C'est-à-dire ne négliger personne. Et donc, on est en plein dedans et on a des réunions sans arrêt sur la façon dont le libraire pourrait avoir son utilité si tant est que le numérique prenne le dessus par rapport au livre papier. Mais on n'y est pas.
Définitivement, l'affaire est vraiment complexe. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à se mettre en place. Et puis lire, c'est bien, c'est génial, mais encore faut-il véritablement savoir lire. On va revenir dans notre monde, dans la bonne société qui nous accueille, qui nous fait vivre. On va se détendre avec 4 notes de musique d'un morceau, on est encore chez les libraires, de Eric Bibb, Turning Pages. Mais avant de revenir sur ce que j'appellerais la langue de bois, donc là elle ne sera pas à lire, elle sera à entendre. Mais ce sera l'objet de ma chronique dans quelques minutes.
Some folks just love to watch TV. those commercials sure do annoy me. I love a good book, and if I choose, I'll read it all in one go. If I couldn't read, I wouldn't know half of what I know. I'll read standing up, sitting down in the tub, on the plane. I've been turning pages since I first met Dick and Jane. Some guys just love the game of poker. Me, I don't know the difference between a jack and a joker. But when you read a book by Mosley, man, you can't lose. Yes, I'm talking about Walter, Rude R.L.'s blues. I read it standing up, sitting down in the tub on the train. I've been turning pages since I first met Dick and Jane. Shakespeare. Some folks wild about their Langston Hughes. Some folks just love to read the Bible and shout out the news. As a child, I loved my Hardy Boys and my Nancy Drews. I'd read standing up, sitting down. Kids used to call me the brain. I've been turning pages since I first met Dick and Jane. I'll read standing up, sitting down in the tub on the plane. I've been turning pages since I first met Dick and Jane.
La chronique du loup, alias Yves Le Bozec.
Ah, si grand que soit le verre que l'on nous tend de l'extérieur, nous préférons boire dans le nôtre tout en trinquant aux alentours. Martelait le général de Gaulle en campagne. Il y a des langues de bois qui parlent d'elles-mêmes. Celle-ci en fait partie. Voilà une métaphore qui a du sens. Et chacun de comprendre ce que ce beau discours télévisuel était destiné autant aux Français, ses électeurs, qu'aux chefs d'État étrangers, que ce soit les deux grands, la Chine, les pays européens, comme ceux dits du tiers-monde. 50 ans plus tard, le grand échiquier a évolué. Le roi soviétique s'est couché, laissant victorieux un capitalisme argenté en voie de financiarisation, et le pion, France, de tenter de se raccrocher à quelques branches, qu'elles soient européennes ou atlantiques. Mais la cavalerie noire, avec un pas de côté et deux pas en avant, de provoquer indigestion et indignation. Une paire de fous ont semé la panique dans les rangs. Les tours qui abritaient les sièges des belles entreprises françaises tremblèrent sur leurs fondations. Comme au casino, quelques croupiers annonça « rien ne va plus ». Même la reine de l'industrie nationale, l'agroalimentaire, fut attaquée. Et le président, démonarchisé, de se souvenir des cours qu'il avait reçus lorsqu'il était élève à HEC. Des cours de géopolitique et d'histoire économique franco déjà mondialisés, des cours qui auraient pu être donnés par une Marisol Touraine inspirée, une autre époque. Et le président de repenser au monarque républicain qu'avait été de Gaulle et de se remémorer la phrase. Si grand que soit le verre que l'on nous tend de l'extérieur, nous préférons boire dans le nôtre tout en trinquant aux alentours. Et de trouver la bonne combinaison en roquant et en se disant « Encore faudrait-il avoir un verre ?» Et d'appeler Desrochefs le camarade Montebourg « Arnaud, mon ami, dessine-moi un verre en forme d'entreprise. » Et pourquoi faire? Pour fabriquer quoi? Et comment va-t-on procéder, mon président? En protégeant d'abord les tours de ces chevaux danubiens et de ces fous d'outre-Manche, puis en produisant de l'utile et même de l'agréable, ici et maintenant, car le changement, c'est maintenant. Et les pions qui traînaient sur le tapis vert d'applaudir et de nommer la chose une économie fondée sur le circuit court, pour court-circuiter les ombres argentées qui ont muté le capitalisme industriel en capitalisme financier. Comme quoi De Gaulle reste d'utilité publique encore aujourd'hui. Décidément, quand le loup verse dans la métaphore, il expertise la langue de bois et s'aperçoit qu'elle peut parfois produire de l'intelligence quand elle donnerait du sens au son. Bon, on est dans l'antre des belettes, il y a un lettré, il y a un patron, il y a un consul, il y a un homme de chambre, enfin c'est le même. À la CCI, il vice-présidente. Il est venu dans notre studio, il voyage pour s'informer, il voudrait bien vaincre la crise qui sévit au sud de la France et même ailleurs, c'est son côté César. Veni, vidi, vici, pourrait-il dire. Pour diverger, il va nous parler, et on va parler maintenant un petit peu d'économie et revenir au sérieux de la chose. Et on va voir ce que ça donne à un lettré qui fait de l'économie. Ça, c'est pas... En France, normalement, c'est pas comme ça. Quand tu veux faire de l'économie, tu fais HEC, tu fais, voilà, tu fais pas une vilaine licence ou maîtrise ou thèse de philo, de lettres modernes ou classiques. Alors, on va parler d'économie. Le rôle consulaire, chambre de commerce, n'est-il pas aujourd'hui de rétablir les circuits courts pour améliorer le vivre ensemble, enfin, ou dit autrement, plus simplement, à quoi ça sert une chambre de commerce et d'industrie, notamment à Montpellier ?
Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, et particulièrement dans l'entreprise, où on trouve que je passe beaucoup trop de temps à la chambre de commerce par rapport à la librairie. Vu d'un point de vue très, très, très extérieur, on a un peu de mal à se faire à l'idée de tous les sujets qui sont de la préoccupation des chambres de commerce. On peut s'emparer de tous les sujets. Le problème étant qu'il faut que tous ces sujets-là soient abordés avec d'autres structures, alors que ce soit la ville, que ce soit l'agglo, que ce soit le département, que ce soit la région. Et on mesure peut-être au poste où on est les difficultés de faire avancer les dossiers. Et pour ma part, et puisque je, entre autres choses, je m'occupe de tourisme, d'économie, de tableaux économiques, de patrimoine, de culture. Donc ça peut paraître accessoire pour bon nombre des entreprises qui sont assujetties à la chambre de commerce.
Entreprises et puis des Montpellierains. Enfin,
oui, mais enfin, on travaille beaucoup avec des entreprises et on essaie d'élargir le tout ce qui concerne l'entreprise. La chambre de commerce, avant tout, et pour répondre à la première question, c'était, ça sert à aider les entreprises, lorsqu'elles se constituent, à faire toutes les démarches le plus rapidement possible, ne pas avoir d'embêtements et de paperasses à faire, et Dieu sait s'il en reste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on y travaille, ça s'améliore. Mais comment quelqu'un qui va construire sa petite entreprise va savoir si c'est la chambre de commerce, si c'est la chambre d'artisanat, si c'est la chambre d'agriculture, parce que tout ça se mélange après à un moment donné. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien. On a beaucoup trop de toute façon d'organisation.
Excuse-moi, sur un corps purement individuel, mais moi, quand j'ai créé ma propre entreprise il y a maintenant près d'une vingtaine d'années, l'idée ne m'est même pas venue d'aller voir la chambre de commerce.
Pourtant, c'est même un des passages obligatoires pour s'inscrire en registre de commerce.
Ah oui.
Non. C'est tout simple.
Ça, je me souviens que ça m'avait coûté des francs à l'époque.
Voilà.
Puisqu'il avait fallu effectivement que je fasse un chèque.
La chambre de commerce, ce n'est pas une association d'intérêts contradictoires.
Je crois qu'il y a une association de malfaiteurs.
Sûrement.
Et ce n'est pas là sa principale difficulté.
Intérêt contradictoire, oui, parce que comme dans toutes les organisations, il y a des gens qui viennent là pour le bien public et il y en a qui viennent pour leur bien propre. Donc, et c'est vrai qu'on est...
Il n'y a pas coché les francs-maçons, ça.
Ah, je ne connais pas les francs-maçons, je ne sais pas qui c'est.
Non, parce que c'est ce qui est reproché dans quantité de loges montpolyraines, notamment.
Il y en a beaucoup à
où certains confondent justement intérêts particuliers et.
Non, mais c'est être informé, c'est peut-être pas un mal. Enfin, c'est être informé de tout un tas de sujets.
Tu fais partie des très peu de montpolyrains qui ne sont pas francs-maçons, c'est possible ça.
Ah ben je le dis souvent, oui, oui, oui.
C'est pas possible.
Ben oui, non, non.
Bon, ah, ben, ça y est, on en connaît un, on en connaît un.
En général, il paraît qu'il ne faut pas le dire, mais de toute façon...
Dans le conseil éditorial, nous...
Si je l'étais,
on dit, ouais, mais là, il y a que des fromages et tout. Non, il y en a un qui... Ah, bon, ben d'accord.
Non, c'est pas tout par paresse, parce que ça m'aurait donné du travail, que j'avais pas envie de...
C'est l'exception qui confirme la règle.
C'est bien connu qu'il est plus rapide à Montpellier de faire la liste de gens qui n'y sont pas que des gens qui y sont.
Des gens qui y sont.
On a fait se détourne, là. Je reviens à la question. Les intérêts contradictoires, c'est pas obligatoirement. Lorsque je parle d'intérêts contradictoires, c'est pas obligatoirement par rapport à l'esprit plus ou moins vénal de X, Y ou Z. C'est y compris dans sa composition même. Entre, je sais pas moi, le directeur d'une chaîne d'un franchisé avec l'indépendant, avec.
Des noms, bon, tu parles de LGR d'un côté.
C'est sûrement très contradictoire dans les. Mais en même temps, c'est ça qui constitue une liste. Je pense que la chance qu'on a eue, en tout cas, quand on a fait une liste commune, c'est d'avoir des gens très différents. Mais si tout le monde travaille dans le même esprit, je pense que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Il ne faut pas qu'il y ait des
dérapages. Pour revenir à ce qu'on disait... Ce qui manque surtout, en fin de compte, dans le dialogue, c'est l'objectif commun.
voilà. Mais si, il y a quand même quelques objectifs communs, quelques objectifs phares sur lesquels, je pense, on a pu, parce qu'il y avait entente, parce que sinon, jusqu'à présent, penser à Subdeco, par exemple, pour faire évoluer, ça fait des années que tout le monde veut faire évoluer. Mais tout le monde sait qu'il faut la faire évoluer. Et personne ne s'entend parce que, justement, on ne prenait pas l'objet de cette réflexion ensemble, dire on l'a fait évoluer de telle et telle façon. On ne pensait pas à la même façon entre, effectivement, un patron de grande distribution et moi qui suis libraire. C'est là-dessus, c'est souvent...
Est-ce que le point commun, justement... de tous les patrons.
À moi, c'est de faire avancer l'ensemble.
Ça ne devrait pas être de rétablir les circuits courts, justement ? C'est-à-dire de relocaliser au niveau des productions, à quelque niveau que ce soit, que ce soit de la production agroalimentaire, de la production éditoriale au niveau libraire, de la production industrielle.
On vit des absurdités totales, parce que moi, depuis que je suis élu à la Chambre de commerce, je ne peux plus travailler avec les chambres de commerce. Donc j'étais fournisseur de chambre de commerce, je ne peux plus être fournisseur de chambre de commerce.
Ah oui, bah sinon, arriver à ce qui a failli arriver à Borras, quoi.
Non, mais moi j'étais fournisseur avant, je veux dire, je vois pas qu'est-ce qui me... Enfin, c'est un débat qu'on a encore aujourd'hui, mais tout ça c'est dû aux appels d'offres, c'est dû à des règlements qui aujourd'hui cassent les circuits courts. Parce que pourquoi les libraires ne peuvent plus servir parce qu'il y a les élus qui ne veulent surtout avoir aucun problème. Donc on fait des appels d'offres même quand il n'y en a pas besoin. En tout cas, ce qui concerne la librairie, c'est très clair. Les seuils vont être augmentés par la nouvelle ministre, mais bon, des petites villes...
Les seuils sont à quelle hauteur aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est au-delà de 15 000 euros. Donc,
au-delà de 15 000 euros, il y a appel d'offres obligatoire.
Mais il y a plein de bibliothèques qui dépensent entre 15 000 euros.
Ce seuil, c'est pour les libraires ou c'est en général
pour la librairie.
Ah, c'est pour les librairies. Pour les librairies, pas en général.
Non, dans les travaux publics, j'imagine que... Bon,
c'est bien au-delà.
Ouais. Mais du coup, on ne peut plus faire travailler les locaux, en quelque sorte, parce qu'il y a les... 5-6 gros qui foncent là-dessus et qui prennent tout sur le passage. Et aujourd'hui, les marchés du livre, les marchés, sont complètement accaparés par quelques fournisseurs, je dirais. Même nous, sur Homs, on n'y est rien là-dedans.
Parce que d'une façon naïve, moi, il me semble qu'effectivement, la préoccupation...
Et c'est plus facile d'aller chez son libraire qui est à côté, souvent, que d'aller commander Paris, à Lyon, voilà.
Mais il me semble, parce que la préoccupation principale, il me semble, d'une chambre consulaire locale ou régionale, ça serait effectivement le développement de l'économie régionale. Et favoriser effectivement à l'intérieur.
C'est une mentalité.
C'est ce que Yves appelle peut-être quelque part le circuit court.
Voilà. Oui, mais c'est une mentalité à faire évoluer. Je un petit exemple qui est très actuel, c'est tous les gens du bâtiment aujourd'hui. Qui s'unissent parce que trop de gens arrivent de l'extérieur, donc
casser les prix des personnes qui sont embauchées pas du tout légalement.
C'est la fameuse directive Bolkestein, plus ou moins appliquée voilà. Aujourd'hui
au
niveau européen.
Voilà, mais c'est ça, c'est même personne qui hurle, et je vise personne là, mais ça m'est arrivé, donc je le répète, de leur dire ce que je venais tous de les voir débarquer en voiture. Je dis, tiens, mais c'est bizarre, mais vous aussi pour les voitures, c'est pas un circuit court que vous prenez. Parce qu'il y avait tous des voitures étrangères. Alors là, ça a commencé à les faire interroger. Effectivement, mais je crois que c'est ce genre de discours qu'il faut avoir avec les gens.
Oui, mais il y a des voitures étrangères qui sont fabriquées en France, tandis que les voitures françaises ne sont plus fabriquées en France.
Mais après, on se plaint d'un truc qui nous touche directement, mais le truc d'à côté, on s'en fout, finalement.
La voiture française, c'est Toyota.
Oui. Et le Renault, elle est faite en Roumanie, elle est faite au Maroc,
non, mais... Moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, il y a, dans la communauté européenne, il y a un certain nombre d'interdictions d'aide de l'État à l'économie, chose qui n'existe pas sur le plan régional. Et où, effectivement, les régions peuvent effectivement ont plus de liberté que ce que canonnent les États. Et donc, effectivement, moi, il me semble que c'est peut-être sur ce terrain-là que les chambres consulaires devraient être.
Tu veux dire via l'Europe?
Oui,
via l'Europe.
Non, mais cette liberté des régions, tu veux dire que c'est presque un scandale qu'une région, je ne pense à aucune région en particulier, aille choisir éventuellement des gens, par exemple en étant dans le sud, des gens à Strasbourg plutôt que des structures qui seraient installées
non,
à Montpellier.
Non, c'est pas obligatoirement à ça que je pense. Je pense tout simplement.
C'est pas allusion au livre, bien entendu.
Non, mais je pense par exemple au fait que l'État ne peut pas éventuellement prendre des participations ou faire des subventions à des entreprises alors qu'une région a cette possibilité au travers d'économies mixtes, etc.
Oui.
Or, à partir de ce moment-là, le développement régional ou la préservation d'emplois ou le développement d'emplois ou la sauvegarde de certaines entreprises plus ou moins peuvent se faire effectivement de ce biais-là. Or, je crois que c'est une carte qui n'existe pas aujourd'hui, enfin, ou qu'on n'utilise pas. Et qui est utilisé d'ailleurs, entre parenthèses, dans d'autres pays.
Oui, mais ce qu'il faudrait surtout, enfin, ce que je disais au début de mon propos, c'est que les chambres de commerce sont au milieu de toutes les structures. Moi, sur le tourisme, il y a 15 structures différentes qui travaillent. Rien n'avance. Parce qu'il faut que. Et travailler ouais, ensemble, c'est vouloir faire avancer, c'est vouloir qualifier. Je veux dire, aujourd'hui,
parce que René Lévy est un branleur.
Malheureusement, on ne le voit plus, la chambre de commerce. Mais je
veux dire,
cuisine.
Aujourd'hui, on sait qu'il y a une qualité qui baisse à Montpellier, dans les restaurations, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que. Parce que, individuellement, tout le monde vous dira qu'il est bon, mais on sait très bien que ce n'est pas vrai, qu'ils sont mal reçus, qu'il y a plein de problèmes. Mais on peut prendre ces problèmes à bras le corps. On ne peut pas y arriver. Et or, si on continue comme ça, c'est la ville qui en souffre derrière. C'est pas l'individu qui fait de ça.
On va prendre un exemple tout à fait concret qui m'est arrivé ce matin, fin de matinée. Je devais avoir contact avec la maison du Languedoc-Roussillon à Bruxelles. Il me fallait le numéro de téléphone, Google, machin, etc. Du coup, je tombe sur le site. Et je tombe sur le site, mais c'était un site à 2 francs 6 sous. Je crois qu'un collégien, un blog, il est meilleur. C'est une catastrophe, ce truc. Oui. Et il y avait une petite page, notamment sur le tourisme, qui expliquait que Montpellier était une belle ville, mais qu'il y avait aussi Palavas, machin, bidule, mais qu'on pouvait y manger des tielles à 7, mais que... Non, mais du n'importe quoi.
Non, mais je pense qu'il faudrait que les gens qui interviennent sur ces secteurs-là, mais le taxitaire, déjà, à la gare ou à l'aéroport... Ils attaquent Montpellier, enfin, prenez le taxi comme moi, ils commencent à dire qu'ils démolissent Montpellier aux gens qui arrivent. Vous demandez à un serveur dans n'importe où est le musée, quelle expo, personne n'était foutu de vous répondre. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est à faire pour valoriser la ville. Si on ne la défend pas ensemble,
il y a un problème de formation. Là.
Mais c'est un problème de formation. Il faut envisager de faire de la formation tout nouveau serveur. Je veux dire, il y a un cours d'une heure de culture montpelliéraine, ça ferait de mal à personne. Je veux dire, et au moins, il a enregistré. Mais je pense qu'il y a des choses comme ça avec les Calentras et l'Office du tourisme. Alors, on attend le nouveau directeur, on attend la mairie, on attend toujours quelqu'un, en fait. Et c'est un peu comme ça que je crois que les différentes choses se lassent.
Est-ce que vous n'avez pas tout faux là, à la CCI, comme à la région, comme au département, comme ailleurs? Parce que le pognon, en l'occurrence, sur une question comme ça, c'est à l'Europe qu'il est à prendre. Parce que l'Europe met des sous, d'autant plus qu'on est une région défavorisée, d'autant plus l'Europe met des sous. Le Languedoc est une région défavorisée, ou du moins classée comme telle, mais encore faut-il déposer des projets, ce que Jacques Blanc n'avait jamais su faire. Du coup, sauf pour l'autoroute à 75 ou pour faire petite chose ici ou là. Et ce que Frech avait fini par comprendre, et bon, malheureusement, il est plus là, mais où ça aurait pu avoir lieu. Est-ce que le problème, il n'est pas là? C'est que, bon, certes, qu'il y ait une osmose entre toutes les collectivités territoriales et puis la CCI, c'est une chose. Mais que vous ne vous adressiez pas, si ce n'est conjointement, au moins individuellement, directement à Bruxelles. Est-ce que le problème, il est pas là?
Je pense que nos dossiers de chambre de commerce sont pas, à mon avis, sont pas éligibles, même à l'Europe, je pense pas.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Ah, si, non, les dossiers de la chambre de commerce, non. Mais des dossiers d'entreprise, oui. À la condition qu'il soit géré par la personne idoine.
Non, puisqu'on ça passe par un organisme régional.
Voilà. Mais là il y a un changement.
Pas nécessairement.
Non, mais puisqu'on vient de boire un verre ensemble en partageant, créer des routes de vin. On travaille beaucoup sur les routes de vin.
Créer une route de vin en Languedoc, pas créer des routes de vin. Il y en a déjà 13, si ma mémoire est bonne.
On voit quand même comment quand les touristes viennent à Montpellier, ils ont tant de temps pour faire tant de choses. Donc on travaille beaucoup là-dessus, pour voir quelles sont les routes. Alors aujourd'hui, bon,
il y en a qu'une à faire. Au travers de tous les châteaux viticoles du 19e siècle, de 1850.
Mais voilà, il faut...
Ah non, mais attends,
non, il faut qu'il y ait des modules.
Bourgogne, les routes de Bordeaux, les routes d'Alsace, ça ne se font pas une journée.
Non, mais il faut que les touristes puissent s'arrêter. Est-ce qu'ils auront de l'hôtellerie dans là? Non, il n'y en a pas.
Ah ben voilà. Ah,
alors,
oui,
non, le propriétaire, il ne veut pas. Non, il ne veut pas y être tout le temps. Non, enfin, on a tous ces problèmes-là. Pour arriver à résoudre l'ensemble des problèmes pour un sujet qui paraît évident, ça se fait partout, ici, sur rien. Alors après, non, là, c'est du département, donc non, ça ne marche pas. Il faut que ce soit de l'agglo. Ah non, ce n'est pas de l'agglo, c'est de la ville. Enfin, voilà, on passe notre temps à ça. Ah.
Mais pour revenir sur l'histoire de la gestion des fonds européens, je signale que ce sont les régions qui vont gérer les fonds européens.
Oui, bien sûr.
Et donc, ça va donner une marge de manœuvre aux régions. C'est là qu'on va voir l'imagination au pouvoir, entre guillemets, et que, effectivement, les régions vont avoir un poids extrêmement considérable, non seulement de la gestion de ces fonds européens, mais en même temps de la coordination des différentes structures.
Ce que ses collègues Royal a déjà compris depuis un bon petit moment dans sa région de Charente-Bretou.
C'est vrai.
Je pense qu'elle était à l'avant-garde, oui, effectivement. Oui.
Mais là, au-delà de l'économie, effectivement, faire une économie de proximité, une économie de circuit court, ça semble délicat. Est-ce que c'est pas tout simplement la démocratie libérale, telle qu'on la connaît, qu'il faudrait jeter aux poubelles de l'histoire pour la remplacer par un fédéralisme communal, départemental, régional, plus ou moins proudhonien? Enfin, j'aurais une question là, et justement, à Jean-Marie Sauvès, le PDG de Sorams. De l'économique ou du politique, qui doit ou qui devrait commander à qui?
Ah, pour moi, c'est le politique, mais je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord.
Alors, qu'est-ce que tu fous, la CCI?
Ça, c'est une vision très française.
Tu vas te mettre sur une liste à Montpellier, alors? Tu sais, il y a une rumeur et tout, Jean-Marie Sauvestre et tout, il va sur une liste à Montpellier. Non?
Non, je crois pas. Non. Non,
tu crois pas, donc t'es pas sûr. Bon, donc, il va être sur une liste, on sait pas encore où, on sait pas encore sur quelle liste.
J'ai fini ma carrière politique il y a longtemps.
Tu préfères rester marionnettiste?
J'ai été maire, ça m'a suffi.
Non, il était maire de Saussan pendant plusieurs mandats.
Certes. Mais la démocratie libérale telle qu'elle fonctionne depuis deux siècles en Occident a créé un véritable sens caché, mais sens C-E-N-S, comme l'affirme Daniel Gaxi depuis 1978, une espèce de caste dirigeante qui s'est emparée des leviers de tous les pouvoirs, en éloignant les citoyens, en les empêchant d'y participer. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause cette forme de démocratie? Et est-ce qu'il ne faudrait en venir à la démocratie de proximité?
Oui, mais c'est le mandat unique, ça, qui va peut-être permettre, si tant est qu'on le voit arriver un jour, je ne sais pas ce que Jean-Pierre en passe.
Ça, c'est mal barré, ça. Hein,
mais oui, mais ce sera...
Pour la fin du quinquennat, mais il ne nous a pas dit lequel.
Oui, mais je pense que c'est un débat qu'il a tort de négliger, parce que je pense que ça renouvellerait et que beaucoup de gens aujourd'hui en parlent, et quand ils en parlent comme étant quelque chose qui va faire bouger toutes les lignes, quoi. Sinon, on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire toujours les mêmes, quoi.
Oui, ce sur quoi, alors je vais faire une petite précision, parce que quand même, il faut rappeler les choses. Il y a 550 000 élus au suffrage universel en France.
Oui.
le cumul des mandats touche à, au maximum, touche moins de 5000 personnes. Et pas, par rapport aux 550 000, ça fait, j'ai pas le temps de faire le calcul, le 20 aidant. Mais donc, je pense qu'il y a une forme de démagogie. Et le problème, c'est vrai que le cumul
c'est moins de 1%.
C'est moins de 1%. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on est en train de focaliser l'opinion en disant « sus au cumulard », alors qu'en fait, la gestion quotidienne des citoyens se fait avec 99% des élus au suffrage universel. Je ne parle pas en plus des élus au second degré. Je ne parle pas du Sénat avec ses 300 combien 23 ou 27 sièges, je ne me souviens plus. Et je ne parle pas des gens qui sont élus dans les communautés de communes ou dans les agglomérations, qui sont délégués par leur commune. Je ne parle que des élus au suffrage universel. Donc je pense qu'il y a une espèce d'opprobre qui est lancée sur les politiques en général, alors que ça ne touche que 1% des politiques. Sans doute peut-être ceux qui ont le plus de pouvoir, etc. Oui, etc. Je pense, méfions-nous. Donc,
Il y avait un chauffeur de la région qui me disait récemment, il me disait... Parfois, il y a certains élus qui ont inventé l'année à 1450 jours.
Oui, mais c'était un chauffeur qui avait une mauvaise conduite.
Non. Parce que bon, c'est quand même une réalité.
Ou que tu es mal dirigé.
Tu peux pas... Parfois, il y a trois fonctions. Tu peux pas être tous les jours et sur même nombre d'implications sur trois fonctions. C'est pas possible.
Je rappelle
les jours ne font que 24 heures et l'année ne fait que 365 jours.
Je rappelle que l'honnêteté qui est liée à la déontologie fait qu'un fonctionnaire a une obligation de réserve. Et je trouve dommage qu'un chauffeur, quelle que soit sa conduite, devrait s'éviter ce genre de choses. En plus, ça, je pense que ça tombe dans une espèce de démagogie anti-politique qui me semble, dans l'état actuel des choses, extrêmement dangereuse.
Oui, mais ça, c'est parce que le renard nous a pas cité le chauffeur de
Non, pas du tout.
Et je vais rajouter quelque chose parce que nous avons déjà eu ce débat. Je vais rajouter quelque chose parce qu'on a déjà eu ce débat. Laissons les gens voter. Où nous sommes dans une démocratie, les gens sont contre le cumul, laissons les gens qui cherchent à cumuler se présenter aux élections. Et on verra bien s'ils sont élus ou pas. On s'apercevra que 75 ou 80% des gens...
La même chose pour la parité, alors.
Non. Et on verra très très bien que la plupart des gens, 80% des électeurs, vont revoter pour des gens, y compris en situation de cumul.
Oui, ça c'est certain.
Voilà. Parce qu'il y a la reconnaissance aussi de...
Du ventre.
Il y a la reconnaissance, effectivement...
Côté fraîchien, ça.
Non, il n'y a pas 90% des citoyens de Montpellier qui sont employés municipaux ou régionaux. Je trouve que c'est d'une démagogie facile. Et la deuxième chose...
La démagogie est dans tes propos, excuse-moi.
Non.
Parce que si un parti politique donne l'investiture à une personne qui a déjà une autre fonction politique, ma foi...
C'est la reconnaissance du travail bien fait.
Quand on sait qu'en fin de compte, les gens votent à 70% par rapport à une appartenance au parti, à partir de ce moment-là, ils votent sur un vote plus ou moins contraint.
Bon, messieurs, c'est pas tout, mais c'est l'heure, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Le monde est définitivement complexe. Une proposcopie ne suffirait à régler le problème, tout au moins aura-t-elle permis de poser quelques questions, de mettre quelques points d'interrogation dans l'océan des certitudes qui n'en sont pas. Bon, quoi qu'il en soit, la vie s'arrête pas là. D'autres ont réfléchi aussi à la question. C'est pourquoi, après la trêve hivernale que s'accordent le loup, le renard et la belette durant 15 jours, nous convierons dans l'entre des belettes un des animateurs d'une association très montpelliéraine, Montpellier 2020. Il s'agit d'une ville... Il rêve d'une ville meilleure, faute d'inventer un meilleur des mondes. Vous reconnaîtrez François Delacroix, le sage qui ne regarde pas le doigt quand on lui montre la lune. Il sera en compagnie de Madame la mairesse de Pignan, ainsi que de l'ineffable libertarien, quoique économiste, Alain Desbruyères. Enfin bref, une émission à ne pas rater d'ici début mars, quoi. Le tout sur le 93.9, tous les lundis de 12h30 à 14h. Remerciements non seulement à la brillante technique de Gilles Gouget, mais en plus à son intervention tout à l'heure. À lundi dans 3 semaines. Et en attendant, n'oubliez jamais que la révolte n'est pas un droit, mais un devoir. Ciao.